Jésus-Christ est ressuscité. Alors, je sais que dans certaines traditions d'église, le matin de Pâques, il y a une salutation de Pâques. Alors, si vous voulez simplement dire bonjour à quelqu'un que vous n'avez pas dit bonjour ce matin, faites-le maintenant pendant quelques secondes. Moi, je vous salue tous, en tout cas au nom du Seigneur. L'événement de Pâques est le plus important dans la foi chrétienne. En tout cas, c'est comme ça que je pense qu'on peut voir les choses. Et aujourd'hui, on va continuer de regarder cet événement en lisant dans l'évangile de Jean, le récit de la résurrection de Jésus. Jean chapitre 20. Je lirai dans la version seconde dite à la colombe. Jean chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi. Il vit et il crut, car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. » vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples se réjouirent en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « Que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur !» Mais il leur dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, et debout au milieu d'eux, il leur dit « Que la paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu !» Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors cette année, je vous propose de participer à la plus grande enquête qui n'ait jamais été menée, celle de la découverte de la résurrection de Jésus. Nous allons suivre les différents témoins de notre récit. Et on peut s'imaginer qu'ils étaient comme des enquêteurs malgré eux, des témoins et des personnes qui ont dû examiner ce qu'ils avaient à disposition pour comprendre la résurrection de Jésus. Ce que nous pouvons dire déjà, c'est que toutes ces personnes, tous ces témoins, eh bien, ils sont arrivés tôt ou tard à la même conclusion. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors nous allons suivre tour à tour Marie de Magdala, Pierre et l'autre disciple, qui est Jean, et enfin Thomas. Aujourd'hui, si nous proclamons la victoire de Dieu sur la mort, eh bien, cela ne doit pas nous faire oublier, effectivement, qu'il y a aujourd'hui et récemment encore beaucoup de chrétiens qui sont persécutés et qui souffrent, et beaucoup de personnes également qui souffrent des différents attentats de ces derniers jours. Mais nous centrons notre attention sur cette victoire de Dieu en Jésus, avec l'espérance qu'un jour, eh bien, Dieu va tout changer, qu'il va éloigner le mal définitivement de ce monde. L'évangile de Jean nous rapporte la résurrection par les témoignages de Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, les témoignages de Pierre et de l'autre disciple, du disciple que Jésus aimait, qui est l'apôtre Jean. Jean se nomme ainsi dans son évangile, probablement pour ne pas se mettre en avant. Si on prend les récits de la résurrection dans les 4 évangiles et également dans l'épître aux Corinthiens, eh bien, il faut voir ces récits comme des récits qui se complètent les uns les autres. Comme c'est le témoignage de différentes personnes, il est normal qu'il y ait des différences entre ces récits. Mais il n'y a pas de contradiction qu'on ne peut pas expliquer. Regardons comment notre premier témoin a considéré l'événement qui est arrivé. Il s'agit de Marie-Madeleine ou de Marie de Magdala. Qu'est-ce qu'on peut dire au sujet de cette dame? Eh bien, tout d'abord, effectivement, son nom nous indique qu'elle venait d'un village qui s'appelait Magdala. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elle était très proche du Seigneur, elle l'avait servi. Ce qu'on devrait dire également, c'est qu'elle avait été possédée de 7 démons. Cela nous est appris dans l'évangile de Luc. Elle avait également vu là où on avait mis le corps de Jésus, dans le tombeau. Alors j'aimerais déjà là faire un premier constat. Le premier témoin de la résurrection, Marie-Madeleine, eh bien effectivement c'est quelqu'un de très spécifique quand même. Si ce récit avait été monté de toutes pièces, s'il avait été inventé par Jean ou par les premiers chrétiens, eh bien, il n'aurait sûrement pas choisi, celui qui a inventé ce récit, quelqu'un qui avait été délivré de démons, quelqu'un qui était une femme, alors que le témoignage des dames à l'époque, eh bien, un témoignage d'une femme dans un tribunal valait la moitié de celui d'un homme. Au contraire, on aurait plutôt choisi le témoignage d'un des disciples comme premier témoin de la résurrection, comme celui de Jean ou bien celui de Pierre. Cela nous montre que les choses se sont passées comme elles nous sont dites dans l'Évangile. Marie-Madeleine était la première témoin de la résurrection et l'apôtre Jean, eh bien, il ne pouvait que dire la vérité et indiquer cela. Marie part donc très tôt pour aller à la tombe de Jésus. Les autres évangiles nous apprennent que d'autres femmes sont également parties pour apporter à Jésus un dernier hommage funéraire. Marie découvre le tombeau vide et la pierre qui est roulée sur le côté. Ce qu'on peut dire, c'est qu'elle ne va pas tout de suite penser que Jésus est revenu à la vie. Elle ne va pas dire « Ah mais oui, je le savais, Jésus est revenu à la vie ». Non, Marie va d'abord chercher une explication qui lui semblera logique. Elle va dire « Quelqu'un a volé le corps de Jésus ». C'est ce qu'elle va dire tout d'abord à Pierre et à l'autre disciple au verset 2. Elle dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis ». Elle est tellement convaincue que quelqu'un a volé le corps de Jésus qu'elle va répéter cette réponse à deux reprises. Tout d'abord à ses anges, qui lui demandent également ce qu'elle cherche, au verset 12 et 13, et ensuite à Jésus en personne, qu'elle ne reconnaît pas, verset 15. La perte du corps de Jésus pour Marie était quelque chose de très grave. C'est pour cela qu'elle se met à pleurer, à sangloter. Pour que Marie comprenne ce qui s'est passé, eh bien, il faudra que Jésus se dévoile à elle et qu'il se révèle à elle. C'est quand il l'appelle par son nom que Marie le reconnaît enfin. Et immédiatement, elle se jette sur lui. Jésus lui dit « Ne me touche pas ». Une autre traduction de la Bible dit « Ne me retiens pas ». C'est un peu dans cet ordre d'idée qu'il faut comprendre cette phrase. « Ne me retiens pas, car j'ai encore une mission, je dois encore remonter vers mon Père, vers Dieu le Père. » Ce que je tire de ce premier témoignage, c'est que Marie, eh bien, elle a été convaincue de la résurrection de Jésus, non pas tout de suite, non pas immédiatement, mais lorsqu'elle a vu Jésus en personne, lorsqu'elle lui a parlé. Alors, laissons Marie de côté pour nous tourner vers les prochains témoins de la résurrection. Les prochains enquêteurs malgré eux, Pierre et Jean. Alors là, la situation change. Nous avons deux hommes, deux disciples, dont l'un même avait trahi Jésus à trois reprises et dont l'autre était proche du Seigneur, très proche également. Nous voyons que lorsqu'ils entendent la nouvelle qui leur est annoncée, ils vont au tombeau, au verset 2. Eux également ne tire pas la conclusion immédiatement que Jésus est ressuscité. Mais ils examinent le tombeau. Nous voyons que l'un des disciples entre et que l'autre, au contraire, ne va pas tout de suite rentrer. Et nous voyons que Pierre voit d'abord les bandelettes qui avaient été autour du corps de Jésus. Et quand Jean rentre, eh bien, il voit également les bandelettes. Et il voit un autre détail qui doit attirer notre attention. Il voit le linge qui enveloppait la tête du Seigneur, de Jésus. Alors ce qui surprend Pierre et qui va également probablement convaincre Jean, c'est que ce linge, eh bien, il est roulé à part à une place. Il n'est pas directement au même lieu que les bandelettes, mais il est un peu plus loin, à côté. Au verset 7, nous voyons cela. Pourquoi est-ce que cela est important? Eh bien, si des personnes étaient venues prendre le corps de Jésus, probablement qu'elles n'auraient pas pris le temps de rouler le linge qui enveloppait la tête de Jésus et de le séparer des bandelettes. On sait tous que quand on part en vacances et que si on n'a pas bien préparé nos affaires, notre valise avant de partir en vacances et qu'on veut tous mettre des, on veut mettre encore des choses dans notre valise, eh bien on va se dépêcher de mettre un peu tout dans la valise et puis d'essayer de fermer la valise. On va pas essayer d'ordonner les choses dans la valise. En tout cas, c'est un peu mon cas. Hein. Peut-être vous êtes mieux que moi à ce niveau-là, mais on va faire les choses dans la précipitation. Et des personnes qui auraient voulu voler le corps, eh bien, elles auraient également fait les choses dans la précipitation. Les autres récits des évangiles nous disent aussi que le tombeau avait été gardé par des soldats. Et en plus, il y avait cette pierre qui était lourde. Des voleurs n'auraient pas pu voler, donc, le corps du Seigneur. Donc l'apôtre Jean voit tout cela, il voit le linge roulé à part, il voit les bandelettes et il nous est dit qu'il croit. Ce qu'on peut dire par rapport à Pierre et à Jean, c'est qu'ils n'ont pas été convaincus immédiatement de la résurrection du Sauveur, mais que c'est progressivement qu'ils sont arrivés à cette conclusion. Il aura fallu pour les convaincre qu'ils observent de leurs yeux le tombeau vide, aussi qu'ils soient éclairés par l'Esprit de Dieu pour leur faire leur souvenir des paroles du Seigneur au sujet de sa résurrection. Le dernier enquêteur ou témoin de la résurrection dont nous voulons examiner le rapport, c'est Thomas. Alors Thomas, c'est le plus dur à cuire, on peut dire. Il a été celui qui a été le plus dur à convaincre de la résurrection. Déjà, premièrement, il ne croit pas ses collègues disciples lorsqu'ils lui disent qu'ils ont vu le Seigneur ressuscité, versets 24 à 25. Ensuite, il pose ses propres conditions pour croire à la résurrection. Il dit en quelque sorte, si je ne vois pas ceci, si je ne vois pas les traces des clous dans ses mains, et puis si je ne vois pas la marque de la lance dans son côté, je ne croirai pas. Ici, Thomas a une attitude très humaine. Il pose ses conditions à Dieu. Il dit, s'il n'y a pas ceci, je ne vais pas croire en Dieu, je ne vais pas croire cela au sujet de Dieu. Mais nous voyons que Thomas, eh bien, ce raisonnement, il ne va pas tenir très longtemps. Parce que quand Jésus se montre à lui, alors que ça se passe 8 jours plus tard et que de nouveau la pièce est fermée, eh bien Thomas, le Seigneur va lui dire « Ne sois pas incrédule, mais crois », qui est une forme de réprimande envers Thomas. Et on voit Thomas, on ne sait pas s'il a mis les mains sur le corps de Jésus pour faire comme il l'avait dit, mais on le voit qu'il dit tout de suite « Mon Seigneur est mon Dieu. » On voit que Thomas, quand il voit le Seigneur, eh bien, il est obligé de connaître que Jésus est vraiment ressuscité. Thomas avait posé ses conditions pour croire à la résurrection de Jésus, mais finalement, c'est Dieu en personne par Jésus qui va le convaincre qu'il est vraiment ressuscité. Alors, qu'est-ce que cela nous apprend? Eh bien, ça nous apprend que nous aussi, parfois, on doit plus chercher la volonté du Seigneur que de poser nos conditions envers Dieu. En fait, on ne doit jamais poser des conditions à Dieu. On doit se soumettre à lui et croire à sa parole. L'être humain ne doit pas poser ses conditions pour croire en Dieu ou pour même croire à la résurrection de Jésus. Mais il doit se laisser toucher par le témoignage de ceux qui ont vu le Seigneur ressuscité, par le témoignage de la Bible qui nous parle de la résurrection. Ils doivent se laisser toucher également par le témoignage de chacun d'entre nous qui ont rencontré le Seigneur par la foi. Pour cela, ça nécessite de mettre de côté l'orgueil qui est propre à l'être humain. Parce que ne pas croire à la résurrection de Jésus, ne pas croire que Jésus est vivant aujourd'hui, eh bien, ça laissera l'homme à une vie sans espérance et à une vie qui débouchera sur une séparation éternelle d'avec Dieu. Jésus-Christ est véritablement souverain sur toute chose et nous sommes appelés à avoir totalement foi en sa parole et en lui. Il est le ressuscité, celui dont la mort a effacé nos péchés et à qui nous sommes appelés à exprimer notre plus profonde reconnaissance. Alors ce matin, s'il y a quelqu'un parmi nous qui entend la voix de Dieu en lui, mais qui n'a pas fait ce pas de faire totalement confiance au Seigneur, eh bien, qu'il entende la voix de Dieu, qu'il l'écoute, qu'il vienne me trouver après le culte et nous prierons ensemble. Passons maintenant à ce qu'a provoqué la résurrection. Jusqu'ici, j'ai parlé de différents témoins que nous avons suivis par rapport à leur réaction face à la résurrection. Mais la résurrection a provoqué énormément de choses chez les disciples et même dans l'histoire des chrétiens. La résurrection est à l'origine de la foi des disciples. C'est parce qu'ils ont cru que Jésus était vivant, qu'il était ressuscité, que les disciples ont eu la foi pour continuer la mission du Seigneur. C'est parce qu'ils croyaient à la résurrection qu'ils ont été prêts à livrer leur propre vie pour le Seigneur. C'est parce qu'ils croyaient à la résurrection qu'ils ont témoigné du Seigneur à tous ceux qu'ils rencontraient et au monde entier par la suite. Alors ce témoignage plus tard sera bien sûr complété et il y aura une grande aide avec la venue du Saint-Esprit qui remplira les disciples et qui les qualifiera pour témoigner de la résurrection. Mais nous pouvons dire que la prodigieuse croissance de ces disciples qui étaient 12, puis ensuite il y a eu les femmes, et puis ensuite il y en a eu d'autres qui se sont ajoutés, et aujourd'hui il y a des millions de chrétiens, eh bien nous voyons que c'est vraiment magnifique ce qu'a provoqué la résurrection de Jésus. Nous pouvons aussi dire que c'est Dieu seul qui connaît aujourd'hui le nombre exact de ses disciples, et que c'est à chacun de savoir dans son cœur où il en est, évidemment. Ce ne sont pas tous ceux qui se réclament de Christ qui le sont vraiment. Mais ceci devrait nous encourager néanmoins dans notre vie. Il y a encore une chose très importante qu'a provoqué la résurrection de Jésus. Et cela, c'est une épître de Paul qui nous l'apprend. Paul dit dans Colossiens, au chapitre 1er, « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Christ en vous, Jésus-Christ en vous, l'espérance de la gloire. Peut-être que la plus grande preuve de la résurrection, eh bien, elle est pour le chrétien dans le fait que nous savons, en tant que chrétiens, personnellement, que Jésus-Christ est en nous. Nous savons qu'il vit en nous par son Esprit-Saint. Nous sommes convaincus, car depuis notre nouvelle naissance, eh bien, nous avons pu parler avec le Seigneur par la prière, et nous avons eu ce témoignage que lorsque nous le prions, lorsque nous nous adressons à lui, eh bien, il a répondu. Ce témoignage est évidemment propre à chacun, et c'est, je l'espère, quelque chose que chacun d'entre nous avons déjà expérimenté. Mais nous savons que cela est quelque chose de très fort, et que même si des gens disent que Jésus n'est pas ressuscité, eh bien, ce témoignage en nous, eh bien, il est plus fort que cela. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner des raisons à ceux qui nous demandent pourquoi Jésus est ressuscité, comment il est ressuscité, comment est-ce qu'on réconcilie des contradictions dans les évangiles, des contradictions apparentes. Il faut faire tout ce travail. Mais la plus grande chose, c'est qu'une fois que quelqu'un a la foi, eh bien, il a cette conviction, cette ferme assurance que Jésus est vraiment vivant en lui. Ainsi, le témoignage en nous du Saint-Esprit, eh bien, nous convainc de la réalité de la résurrection de Jésus. Et cela, aujourd'hui, eh bien, c'est un grand sujet de reconnaissance. Nous pouvons être très reconnaissants envers Dieu de cela. J'ai lu justement à ce propos un témoignage, une partie d'un témoignage au sujet d'un homme qui niait fermement la résurrection de Jésus, mais qui pourtant avait décidé d'étudier les textes du Nouveau Testament à ce sujet. Alors il s'est mis à lire les textes, il s'est mis à chercher Dieu dans un sens, et finalement, eh bien, il a été convaincu que Jésus était ressuscité. Alors cette conviction, il l'a obtenue parce qu'il a lu les textes, mais aussi parce que le Saint-Esprit, eh bien, lui parlait et il a été ouvert à cette voie. Nous pouvons aussi dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes, j'ai déjà entendu des témoignages à ce sujet, qui nous disent qu'elles ont vu Jésus-Christ dans un rêve et qu'elles n'avaient pas accès à la Bible, mais Jésus s'est révélé à eux dans un rêve. Eh bien, ces personnes témoignent également que le Seigneur est ressuscité, qu'il est vivant et qu'il se montre à ceux qui le cherchent. J'en viens au dernier thème que j'aborderai ce matin. La résurrection de Jésus-Christ, c'est un grand exemple de la puissance de Dieu. Cette résurrection nous montre que Dieu a tous les pouvoirs, qu'il n'y a pas une situation trop difficile, trop compliquée, trop désespérée que Dieu ne peut pas changer. Le plus grand ennemi que l'homme, auquel l'homme doit faire face, en tout cas dans son humanité, c'est la mort. Eh bien, par la résurrection, Jésus a vaincu la mort. Jésus avait affirmé que Dieu pouvait tout faire. Il dit dans Matthieu chapitre 19, « À Dieu, tout est possible. » Et la résurrection, le retour à la vie de Jésus, eh bien, doit nous conforter dans cette croyance que pour Dieu, tout est possible. Nous sommes appelés à vraiment avoir foi que Dieu peut changer toutes les situations difficiles. Néanmoins, il ne le fait pas tout le temps et il ne le fait pas forcément comme nous le voudrions non plus. Cela, c'est parce qu'il a ses raisons et aussi parce que s'il nous donnait tout ce que nous demandions, eh bien souvent nous demandons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous, malheureusement. C'est pour cela que nous ne les obtenons pas. Mais nous devons avoir ce regard de foi. Nous devons avoir cette confiance que Dieu peut transformer les situations, même les plus désespérées. Cette puissance qu'a Jésus-Christ, elle est aussi décrite par Paul. Paul dit dans Éphésiens 1, « La grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'action souveraine de sa force. » Cette puissance, il l'a mise en action dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Dieu dispose d'une très très grande puissance, d'une puissance infinie pour aider les croyants. Nous devons avoir foi en cela. Nous devons marcher par cette foi qui croit que Dieu peut transformer les circonstances. Nous devons même être des exemples de foi autant que possible. Évidemment, ce n'est pas facile à faire, ce n'est pas facile à vivre, si j'ai envie de dire. Mais c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Et si aujourd'hui ce message peut nous encourager à avoir davantage foi, eh bien, ce sera une bonne chose. Il y a encore une chose qu'a provoqué la résurrection. Dans 2 Timothée, au chapitre 1, nous lisons « Notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. » Ou dans une autre traduction, celle du Semeur, Notre Sauveur Jésus-Christ, il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile, il a fait resplendir la lumière de la vie et de l'immortalité. Par la résurrection, Jésus a vaincu la mort. Et pour nous, en tant que chrétiens, eh bien, cela ne se réfère pas simplement à notre mort future, qui peut arriver n'importe quand, hein, mais disons, c'est pas seulement notre mort prochaine, mais ça se réfère également à la mort des croyants que nous connaissons. nos proches, nos bien-aimés qui sont morts en Christ, eh bien cela nous donne une formidable espérance pour eux. Parce que Jésus, justement, il a réduit à l'impuissance la mort. Sa résurrection, c'est le signe, c'est la garantie que ceux qui sont en Christ et qui sont morts, eh bien, ils vont ressusciter un jour. Cela nous donne de l'espérance et de la paix par rapport à nos proches qui sont morts en croyant en Jésus. Nous suivons un Dieu qui a vaincu la mort et qui un jour la réduira à néant. Nous n'avons plus à craindre la mort parce qu'elle a perdu son pouvoir. Nous pouvons vivre pour Dieu sans craindre la mort. Ce témoignage est si important que Paul, eh bien, le rappelle également dans Thessaloniciens, dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 4, où il dit « Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles », en faisant référence à la résurrection de Jésus. En conclusion, à cause de la résurrection, nous avons, en tant que chrétiens, une espérance vivante, une espérance que rien ne peut détruire. Nous avons une consolation surnaturelle face à la mort de ceux qui sont en Christ. À cause de la résurrection, nous n'avons pas à craindre ce que les hommes peuvent nous faire, car nous savons que même si nous devons mourir, eh bien le Seigneur nous ramènera à la vie. Que l'interpellation du verset 31, eh bien que nous puissions y répondre ainsi. Oui, nous croyons à la résurrection du Sauveur et du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est le Fils de Dieu et que nous avons la vie en son nom. Amen.